Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, et bonsoir Francis.
Et bonsoir Jean-François, vénérable réducteur de texte et grand mandarin en chef.
Et grand ordonnateur de la technique de ce mandarin, et aussi grand connaisseur de jazz. Je vois que vous avez une de ces piles impressionnantes.
Et comme d'habitude, uniquement des disques que vous avez cassés.
Mais en plus c'est vrai.
Bon. Regardez, je montre aux auditeurs.
Mais vous montrez, c'est vrai en plus. Bon, mais tant mieux. Donc voilà. Donc nous avons une belle pile de disques de jazz. Moi j'ai porté des choses un peu qui sortent de l'ordinaire. J'ai essayé. Alors par exemple,
vous nous intriguez.
Est-ce que vous connaissez Alexandre Pierre-François Boëly?
Boëly, ah. Oui.
Oui.
De nom,
hein? Voilà, bon, ben on écoutera ça. Est-ce que vous connaissez Yevgeny Kaperin?
Ah non.
Pas sûr.
Je n'ai pas l'honneur d'avoir...
Pas sûr. Eh bien voilà, j'ai porté un CD de Yevgeny Kaperin. Et puis j'ai porté
Kurt Weill.
Oui, Kurt Weill. Vous savez que Kurt Weill, c'est très connu, bien sûr, parce que c'est lui qui a écrit l'histoire de Mackie Messer. Voilà.
Oui. Qui a fait des musiques de pièces de théâtre
de Brecht. Mais il a écrit aussi un concerto pour violon et instrument à vent.
Oui.
Et voilà. Bon.
Ah, très intéressant.
On sort un peu des sentiers battus, si j'ose dire.
Et puis des livres.
Livres de Anne Garetta. Alors elle s'y... Je dis elle, enfin bref. Bon, un livre qui s'appelle « Pas un jour », sous-titré « Roman ».
D'accord.
Bon, on va parler de ça. Et puis alors, un livre qui m'a beaucoup plu, parce que très varié, c'est des textes divers, qui s'appelle « Tous ces chemins que nous n'avons pas pris », et c'est de William Boyd. William Boyd, qui est un écrivain britannique, qui est toujours vivant, je crois. Il est toujours vivant. Il a écrit pas mal de choses. Et là, c'est un livre vraiment agréable à lire. Je vous en dirai un mot tout à l'heure.
Très bien.
Il y a des livres, mais j'avais pensé faire ça comme rubrique, mais finalement, je trouve ça assez méchant, somme toute. Les livres qu'il ne faut pas lire.
Oui.
Il y a 3 ou 4 livres, je vous jure, depuis la semaine d'avant, il y a 3 ou 4 livres que je n'ai pas réussi à lire au-delà de la page 50. Des choses absolument sans intérêt.
Ça pourrait faire le titre d'une chronique.
Ouais, c'est vrai.
Les livres que vous ne pouvez pas lire, plus loin que la page 50.
Mais je vous jure, en plus, bon, quand c'est publié un peu à compte d'auteur, on peut comprendre. Mais vous avez les éditions de Minuit, vous avez les éditions de l'Olivier, vous avez les éditions Gallimard. Enfin, il y a des trucs, on se dit, mais qu'est-ce qui leur prend de publier ça? Bon, mais enfin... J'ai décidé que je ne parlais que des choses intéressantes. Grâce au ciel, il y en a encore suffisamment. Mais c'est comme vous, Francis, qui êtes grand connaisseur de jazz. Si vous décidiez de passer du mauvais jazz, mal enregistré, mal conçu et mal joué, non.
Il y a des disques qu'on écoute une fois et puis après...
En disant, il nous casse les pieds, ça vaut rien.
Voilà,
ça vaut rien. Oui, tout n'est pas bon.
Ou ce n'est pas dans nos goûts, ou ce n'est pas dans nos envies d'écoute. Quoi.
Voilà, c'est vrai.
Il faut que ça rencontre aussi un peu.
Et puis c'est une philosophie générale qui est le respect du travail d'autrui, même quand il ne nous plaît pas.
C'est vrai.
Voilà. Moi, par exemple, je respecte le travail. Je le respecte tellement que je peux le regarder pendant des jours sans y toucher.
Sans y toucher, oui, sans le déranger. Si on commençait par la rubrique classique.
Je vous propose une rubrique classique, classique sans être classique. Et c'est vrai que c'est un répertoire que nous n'écoutons pas souvent ici, qui est ce répertoire de musique populaire, de musique d'harmonie, de fanfare, etc. Et vous savez qu'en France... Ces musiques d'harmonie et de fanfare a souvent donné de grands musiciens. Maurice André, dont la famille et lui-même étaient dans la musique des Mines d'Alès. Gaston Crunel, qui a été longtemps prof de flûte au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, était de Douai. Il venait des Mines, etc. Enfin bref, voilà. Donc c'est tout un répertoire... très très intéressant. Voilà, alors je vous propose d'écouter. Alors vous savez qu'en France, en plus, pour ce qui est des cuivres, on a de vraiment de d'excellents éléments. Alors je vous propose d'écouter quelques fragments d'une série de quelqu'un qui s'appelle, si j'ai bien compris, Garrett Wood, et qui a écrit plusieurs morceaux consacrés aux fleurs. Alors il y a les daffodil qui est le narcisse, il y a le l'amamélis, ça me revient, je cherchais Witch Hazel, voilà, c'est l'amamélis. Je sais pas pourquoi je sais ces choses-là absolument inutiles, mais c'est comme ça. Voilà, donc nous allons écouter quelques-unes de ces pièces jouées par l'orchestre de cuivre de la musique de l'air de Paris. Et ça, c'est pas rien.
Thank you.
Voilà, eh bien nous avons entendu quelques-uns des morceaux de cette suite, donc de Gareth Wood, interprété par l'Orchestre de Cuivre de la Musique de l'Air de Paris, qui sont des gens de première bourre et qui vont tous au CNSM ou qui en sortent.
Oui, tout à fait. Oui, Ben on va alors du coup j'ai changé un petit peu
de cuivre. Ouais, oui, je vous ai obligé un peu à changer votre
programmation de jazz et je vous propose d'écouter un saxophoniste que j'ai découvert l'année dernière, mais qui n'est pas un nouveau venu sur la scène jazz, mais finalement j'avais jamais eu l'occasion de le voir en public. Il est venu au festival Saxophonia de Saint-Junien et c'était vraiment un beau concert et j'ai pu discuter après avec lui.
Vous avez déjà
Eric Seva, je le nomme Eric Seva, donc qui est originaire du sud-ouest de la France, je crois, je ne sais pas si c'est de Toulouse ou de Montauban ou quelque chose comme ça. En tout cas, qui nous a vraiment fait un très beau concert. Alors, je vous propose d'écouter Eric Seva, saxophone. Il est sur cet enregistrement, il est en trio.
Alors, j'allais vous demander quel saxophone.
Alors,
il y a une grande famille, comme vous le savez.
Dans la conversation que j'ai eue avec lui, il disait que actuellement, il aime beaucoup, beaucoup le saxophone baryton. Donc, il en joue.
Bon.
Mais sur le disque, là, il est sur un saxophone ténor, je pense.
Ouais, en jazz, c'est le plus souvent.
Ténor,
le sax ténor.
Ou soprano aussi. Et là, il est donc avec Kevin Révérend, qui est
un Limousin.
Qui n'est pas du tout Limousin.
Kevin Révérend ?
Ah, peut-être.
Ah, mais je vous jure bien qu'il est Limousin.
Ah oui, alors c'est formidable à ce moment-là. Qui est à la batterie, je pense. Et puis Jean-Luc Difraya, qui est à la contrebasse. Voilà, c'est un trio. Ah, bah, écoutez, il nous reste plus qu'à découvrir ce morceau.
Thank you.
Il est l'heure du premier livre.
Il est l'heure du premier livre, oui. Mais vous avez toujours pas dit quel instrument jouait.
C'était du ténor.
C'était du ténor, oui. Voilà. Oui. Bon, alors, William Boyd, Tous ces chemins que nous n'avons pas pris, c'est un recueil de, faut je le dire, de nouvelles. Oui, c'est. Alors, d'abord, traduit très bien par Isabelle Perrin. Isabelle Perrin, c'est la fille d'une traductrice presque légendaire qui s'appelle Mimi Perrin. Et qui est, entre autres, par exemple, la traductrice de John le Carré.
Ah oui.
Voilà, c'était... bon. Alors, ça s'appelle The Dreams of Bethany Melmoth. Pourquoi ? Parce que donc, cet ouvrage est composé de plusieurs... Alors, c'est pas vraiment des nouvelles, comme on l'entend dans la littérature française. Mm-hmm. C'est plutôt ce qu'on appelle novel. C'est des grosses nouvelles ou des tout petits romans. Et c'est une forme littéraire qui est, ou qui était en tout cas, utilisée dans la formule du dimanche. Alors par exemple, le New York Times, l'édition du dimanche, où il y avait une nouvelle, où il y avait, etc. Ça pesait 2 kilos. Et voilà, alors c'était ce genre-là. Et ce sont ces textes-là que William Boyd nous livre. Alors... une histoire, par exemple, un Don Juan qui drague des filles. Et en fait, tout ce qu'il aime, c'est les embrasser. Et alors, il y en a une, il l'allume bien, tout ça. Et puis, il lui dit, est-ce que j'aimerais vous embrasser? Elle lui dit oui, etc. Il se roule une belle pelle. Et puis après, elle lui dit, mais j'ai mon studio qui est pas loin, là. Mais lui, il aime ça, mais rien d'autre. Mm. Alors il dit, ah oui, mais non, mais il faut que j'y aille, là, j'ai piscine, etc. Et alors, il raconte plusieurs choses. Voilà. Autre texte, c'est quelqu'un qui se remémore sa vie avec tous les objets qu'il a volés ici et là, dans les hôtels, dans les magasins, dans des objets souvent insignifiants.
Les mémoires d'un
kleptomane. C'est les mémoires, un peu les mémoires d'un kleptomane. Et puis alors, il y en a une qui est vraiment, que j'ai trouvé extraordinaire, mais vraiment extraordinaire, l'histoire d'un type c'est un acteur, qui a joué dans beaucoup de feuilletons, beaucoup de séries, comme vous savez, voilà. Et puis, un jour, il reçoit un courrier de son agent ou d'une compagnie de cinéma, tout ça, qui lui dit « Venez tel jour à telle heure, on a un projet pour vous. » Il se pointe, et là, on lui dit « Écoutez, on est désolé, mais en fait, non, c'est pas Alexander machin qu'on voulait, mais c'était Alexandra, c'est juste une lettre, on est désolé, excusez-nous, et voilà, bon. » Et donc, il rencontre par hasard dans le couloir de la maison de production, la Alexandra machin, et qui lui propose, qui lui dit, écoutez, je suis désolé, elle lui dit, mais je peux vous faire gagner 1000 livres sterling, si vous voulez. Elle dit, parce que je dois porter en Écosse, dans un bled complètement paumé, pour le baptême d'un enfant, un grand bocal d'eau du Jourdain. Alors, il lui dit, mais pourquoi vous ne le portez pas vous-même ? Eh bien, elle dit, je ne peux pas, parce qu'elle lui montre, elle a la cheville cassée, une jambe dans le plâtre, elle ne peut pas conduire. Et il accepte, et à partir de là, tout se détraque. C'est-à-dire qu'il est suivi sur la route, il est suivi, alors il se demande comment il va pouvoir les semer, etc., etc. Donc, voilà, et c'est très très bien fichu, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer ? Et en fait, on est un petit peu déçu à la fin, on
se dit,
je ne vous raconte pas, oui. On s'est dit qu'il aurait bien pu se fouler un peu plus quand même, mais bon, voilà.
Oui, mais il s'était déjà foulé la cheville.
Alors voilà, c'est un livre tout à fait agréable, intéressant à lire, très bien. Vous pouvez lire les autres ouvrages de William Boyd. Je me rappelle un roman qui s'appelle « Comme neige au soleil ».
Ah oui, je crois que vous l'aviez présenté dans
l'émission. C'est tout à fait possible. Un Anglais sous les tropiques, voilà, c'est le plus connu, je crois, « Comme neige au soleil ». Et puis, plein le destin. Alors, il y a le destin de Nathalie X, enfin, il y a vraiment une trentaine de titres signés par William Boyd. Voilà, c'est aux éditions du Seuil.
Alors maintenant, nous écoutons un musicien que vous nous faites découvrir.
Écoutez, moi-même je l'ai découvert, c'est Alexandre Boëli. Alors c'est un peu un hasard parce que du temps où il y avait un ensemble baroque de Limoges, ils enregistraient aussi, ils avaient ce goût, il a toujours, Christophe a toujours ce goût de découvrir des choses un peu sortant des sentiers battus, des choses un peu originales, là. Et donc c'est lui qui avait découvert la musique de ce François-Alexandre Boëli, qui a écrit beaucoup de musique de chambre, pas que, mais beaucoup de musique de chambre. C'était un pianiste et un organiste, et il est surtout connu comme organiste.
Je pense que j'ai un 33 tours d'œuvres d'orgue de Boëli.
Voilà, et en particulier, il y a une sortie.
À l'époque des vinyles.
Hein. Voilà, il y a une sortie. Alors, Francis, est-ce que vous savez que, à propos des vinyles, j'ai entendu ça à la radio l'autre jour, on a vendu plus pendant les 6 derniers mois. Vous le savez.
Plus de vinyles que de
plus
CD.
Plus de vinyles que de CD.
Ça ne m'étonne pas. Et vous voyez, voilà. on m'a offert des vinyles et je dois dire qu'après des concerts, souvent les musiciens proposent le vinyle ou le CD et pour quelques euros de plus, on achète le vinyle parce que c'est l'objet souvenir, c'est un bel objet, la pochette est plus grande, les photos sont plus grandes, les textes sont plus grands. Enfin, c'est plus un côté livre que le CD qui a un petit côté miniature.
Les amateurs vous diront que le son est meilleur.
J'ai tendance à le penser. Mais...
Bon, alors pensons-le. Mais l'autre jour, et tout à fait par hasard, j'ai vu dans les rayons de la FNAC, publicité non payée, j'ai vu une platine vinyle en vente. Oui. Neuve, ça se refabrique.
Ça se refabrique. Et ça se revend. J'en ai une toute neuve, effectivement.
Vous en avez une, Francis. Oui, oui. Ah, 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 ça ne m'étonne pas de vous. Bon, les vrais esthètes, légèrement maniaques, se retrouvent. Bon, enfin, toujours est-il que, pour revenir à notre sujet, c'est Alexandre Boëly. Et surtout l'auteur d'une sortie de messe très connue. Voilà, surtout pour ça. Bien, là, je vous propose d'écouter un quatuor en la mineure, donc le premier mouvement, Allegro, opus 27, interprété par le quatuor Mosaïque, sous la direction de Christophe Coin, avec Andrea Bischoff, Eric Hobart, et puis une autre dont j'ai oublié le nom, mais tant pis, ça me reviendra.
Voilà, on le dira après. Thank you.
Alors, donc, nous venons d'entendre ce premier mouvement allegro du premier quatuor en la mineur, opus 27 d'Alexandre Boëly. Alors, j'ai oublié d'indiquer tout à l'heure, pourtant c'était d'une importance capitale, que Alexandre Boëly avait joué et avait été un des promoteurs du piano à pédalier.
Ah, mais c'est vrai, pourquoi vous avez oublié ça?
Alors, mais vous savez, le 19e siècle a été une période extraordinaire de créativité instrumentale. Parce qu'on a inventé, par exemple, l'arpeggion.
Oui.
Ah, c'est à peu près contemporain. Boëly est né en 1785, je crois, il est mort vers 1850.
Mais alors, c'est fait comment un piano à pédalier?
Mais il fallait pédaler pour... Non, c'est comme un orgue. Vous avez un pédalier et ça vous permet de jouer davantage de...
D'accord, ça veut dire qu'il n'y a voix. Pas les deux voilà. Pédales piano et forte,
non,
mais d'autres...
Il y a qui peut-être les pédales piano forte aussi,
mais qui permettent de changer de...
Alors, est-ce que ça permet... on ne peut pas changer grand-chose
changer
sur le piano.
Changer de jeu? On ne peut pas changer de jeu.
Non, alors le clavecin avait... Les derniers clavecins qui ont été fabriqués à la fin du 18e siècle, les clavecins de Rucker, c'est tout ça, avec plusieurs jeux, avec même des trucs où on mettait des feuilles de parchemin qui vibraient au son des cordes. Enfin, c'était plus du maniérisme qu'autre chose. Mais quand on voit les instruments, je vous parlais de l'arpeggion, mais il y en a eu des quantités, et de cela, aucun n'a survécu à l'exception notable du saxophone.
C'est vrai, la famille des sax. Ouais.
La famille des saxophones, ce sont les seuls, et encore... Ils ont survécu, mais dans le jazz, dans la variété.
Oui, oui, oui.
En musique classique, il n'y a rien.
Il n'y a pas de répertoire.
Il n'y a pas de répertoire. Et c'est un son très beau, d'ailleurs, superbe, l'alto, l'école française particulièrement, de Marcel Mull et de Daniel Defayet, qui a produit ces musiciens au son merveilleux, mais sans répertoire, voilà.
Bon, alors, puisque vous parlez du piano à pédalier, moi je vous parle du piano... Tout court.
À bretelles, non.
Ah ben, à bretelles tout à l'heure, d'accord. Ok, vous aurez Sébastien Farge après.
Alors. Ah bah oui, alors Sébastien Farge.
Alors d'accord, non, je vous parle d'un jeune pianiste dont le nom est bien connu à Limoges. Il s'appelle Thomas Maieras. Il est le petit-fils de Maggie Maieras, qui est une prof de piano que beaucoup de jeunes Limougeaux ont connu, avec qui ils ont appris le piano. Oui. Et il est le fils de Alain Maieras, qui lui est bien connu des amateurs de jazz, puisqu'il a lui-même un trio, qui se produit depuis de nombreuses années dans de multiples festivals et sur des grandes scènes de jazz. Mais alors, le petit-fils, donc Thomas Maieras, qui est un jeune musicien, très très talentueux, excellent compositeur, avec vraiment beaucoup de créativité harmonique et rythmique, vraiment qui a eu plusieurs distinctions dans le domaine du jazz. Alors il sera à Limoges en concert, pour ceux qui nous écoutent en direct jeudi soir, c'est trop tard puisque le concert c'est jeudi soir.
C'est malin.
Et pour ceux qui nous écouteront lors d'une rediffusion de cette émission, ben vous pourrez toujours écouter les disques de voilà. Thomas Maieras.
J'allais vous poser une question. Est-ce que tous ces Maieras que vous énumérez, est-ce qu'ils sont parents de Maud Maieras?
Ah, alors,
qui est la romancière,
écoutez,
cette romancière assez remarquable, enfin, qui excelle dans le gore, l'horrible, etc.
C'est une question que je poserai
vous lui demanderez,
à Thomas Maieras.
Parce que vous allez l'interviewer, bien entendu. Et vous allez vous faire dédicacer un disque, j'imagine.
Évidemment.
One More. Bon, allez.
Alors, nous écoutons un extrait de son dernier disque qui est sorti en 2022, qui s'appelle Tenderly at Home. Alors 2022, un Tenderly at Home, ça veut dire que...
Ça sentait le confinement.
Ça sentait le confinement, voilà. Et donc on écoute ce morceau qui s'intitule Tenderly.
D'accord. Thank you. Et oui, Tenderly at Home. Que faire d'autre que de faire des hugs à sa chérie pendant le confinement,
hein. Voilà.
C'est, on y pensait. Bon, alors,
Thomas Maïeras.
Donc, Thomas Maïeras, et vous en entendrez parler.
Bien sûr.
Alors, un livre de Anne F. Garreta. Alors, c'est une écrivaine, je crois, qui est membre de l'Oulipo. Vous savez, ces gens qui... L'ouvroir de littérature potentielle, ces gens qui se donnent des contraintes, des règles, etc., pour écrire. Et alors, elle était arrivée sur la scène littéraire française en ayant écrit un livre qui s'appelle Sphinx, et dans lequel il était presque impossible de savoir si l'auteur était un auteur ou une auteure.
Ah!
Et alors c'était, vous savez, elle avait laissé entendre qu'il y avait un détail dans le livre qui permettait de, mais que, etc. Un peu comme dans La disparition de Pérec,
oui.
Où il y a une
lettre E.
Je ne sais pas où elle est.
Mais moi non plus, je ne l'ai pas trouvée.
Voilà, moi non plus, je ne l'ai pas trouvée. Bon, cela dit, vous regardez sur Internet, il y a 10 000 sites et vous la trouvez. Enfin bref. Donc, c'est Anne Garreta, pas un jour. Alors, pourquoi pas un jour? Parce que c'était évidemment une traduction et une référence à la formule que Émile Zola avait fait graver sur le fronton de sa cheminée dans sa maison de Médan. Nulla dies sine linea. Pas un jour sans une ligne. J'écris tous les jours. Voilà. Et donc, pour Anne Garreta, c'est la même chose. Elle appelle ça roman. Et là aussi, elle semble vouloir dissimuler le genre. C'est ce qu'il faut dire maintenant. Le genre de l'auteur. Alors, je crois avoir vu à un détail près, mais je ne me rappelle plus lequel, qu'il s'agit d'une femme qui l'écrit. Une femme homosexuelle. Vous savez, c'est la mode maintenant, je veux dire, il n'y a pas un roman qui ne soit, où il n'y ait pas de lesbienne. Voilà.
Mais Jean-François...
Pas un film non plus.
Je vous ai bien expliqué que si j'avais été moi-même une femme, j'aurais certainement été lesbienne. Pourquoi ? Parce que je n'aime pas faire la bise au mec parce que ça pique.
Bon, alors, d'accord. C'est un point de vue que je partage. Alors, toujours est-il que pas un jour, c'est une espèce de chronique. Donc, c'est daté. Nuit, tel jour, etc., etc. Donc, il y a des repères. C'est très oulipien parce qu'on voit bien qu'il y a des trucs. Alors, soit il y a des lettres C+, B+, etc. Soit le 24, etc. Soit, donc, voilà.
Il y a une structure visible et une structure cachée.
Voilà, une visible et une structure cachée. Et c'est quelqu'un... Alors, en apparence, c'est le récit de la vie de quelqu'un qui va de Villa Médicis en résidence, en ceci, en cela. C'est-à-dire, une autrice qui ne doit pas gagner énormément sa vie avec ses livres. Elle est un peu connue, mais pas plus que ça. Et donc, qui profite de ce que l'État met, vous savez, des résidences d'artistes, etc. En apparence, c'est ça. Et puis, là aussi, on voit bien, vous le disiez, qu'il y a une sorte de structure cachée. Et puis, il y a ce petit teasing. Est-ce que c'est un homme ou une femme? À mon avis, c'est une femme qui écrit. Alors, c'est un livre plaisant. C'est un livre qu'on lit avec plaisir. C'est un livre qui ne coûte que 14 euros. Mais ça peut compter, après tout. Et voilà, c'est aux éditions Grasset, Anne Garreta... Pas un jour. Et puis, si vous le trouvez, parce que maintenant, vous savez, à Limoges, nous avons ça, nous avons une boutique qui s'appelle le Bibliovore. Je le dis, publicité non payée, là aussi. Ce sont des gens, enfin, une jeune femme en l'occurrence, qui vendent pour 3 euros un livre, et vous en avez 4 si vous dépensez 10 euros, et vous les rachètent au kilo.
Oui, donc je vais lui en apporter, moi j'en ai dans ma bibliothèque.
Alors vous pouvez trouver des livres qui sont en excellent état.
Oui, bien sûr, oui.
Et pour très peu d'argent, etc. Et donc si vous trouvez...
C'est une très bonne initiative pour recycler et faire passer les livres.
Voilà, oui. Donc si vous pouvez trouver un livre qu'elle a écrit avec un matheux dont j'ai oublié le nom, mais qui, ça va me revenir, qui s'appelle Eros mélancolique, avec Jacques Roubaud. Voilà, avec Jacques Roubaud. Beau livre aussi. Voilà, donc là, c'est Pas un jour, aux éditions Grasset, de Anne Garetta.
On écoute Kurt Weill maintenant ?
Eh bien oui, on écoute Kurt Weill.
Alors, qu'est-ce que vous avez sélectionné ?
Alors, j'ai sélectionné, donc c'est un instrument, c'est presque un pari, hein, mais là aussi, c'est quand même pas courant. Donc, un extrait de ce concerto pour violon et instrument à vent datant de 1924, Notturno, c'est interprété par Alexandre Kerr au violon, un ensemble qui s'appelle Ebony Band, ce qui laisse à supposer qu'il y avait beaucoup de comment dirais-je, d'afro-américains, comme oui. On dit maintenant, et c'est Werner Herbers qui dirige l'orchestre. Et voilà, c'était de la musique de Kurt Weill, voilà, 1924. On est, c'est après. Alors, ça a un côté à la fois moderne et aussi traditionnel. On voit que c'est quelqu'un qui a fait de la musique, un peu de la musique de film, oui. Voilà, de la musique de théâtre, il n'a pas fait que de la composition.
Et c'est
dire,
très contemporain, finalement.
Et c'est très, c'est, bizarrement, c'est, enfin,
cette
pas bizarrement.
Cette hybridation de ces
mais
différentes domaines.
Très contemporain. Ouais. Ça, ils ne savent rien dire. Vous savez, il y a d'ailleurs beaucoup de Français qui ont fait de l'excellente musique, musique de film, etc. Enfin, bref.
Parlez-en à nos amis de Cinéscopie, grand spécialiste de la musique de film, le lundi soir sur RTF. dites donc, alors on avait dit qu'on écouterait
alors,
du piano à bretelles.
Du piano à bretelles, ouais.
Bon, alors, ça tombe bien, j'ai un disque de Sébastien Farge sous la main, et je vous ai demandé de choisir entre Bruyère corrézienne ou Frénésie de Zigane, et vous avez choisi Frénésie de Zigane.
Oh oui.
Sur ce disque, il y a aussi une super version de Vesoul de Jacques Brel, hommage à l'accordéoniste de Brel, Marcel Azola.
Marcel Azola.
Ouais, ouais, ouais.
Ben alors, oui, c'est oui, parti, chauffe Marcel. C'était extraordinaire, oui. Ouais. Et ben, mais ça sera pour une autre fois.
Ça sera pour une autre fois. Allez, on écoute Frénésie de Zigane.
Sébastien Farge, c'est quelqu'un.
Ah, c'est quelqu'un de modeste.
Ah ouais, ouais. Il est un excellent musicien.
Vous savez qu'il a été champion du monde d'accordéon.
Mais, je ne le savais pas.
À 18 ans. Il y a un championnat du monde d'accordéon.
Ouais, ça paraît un peu... Bon, bref, c'est...
Alors, je ne sais pas si ça se passe pas sur des thèmes imposés, avec des quarts de finale, des demi-finales.
Je sais qu'il est très apprécié, y compris de musiciens savants.
Oui.
J'allais vous dire, qui est un peu le monde que je fréquente actuellement, voilà, de gens qui étudient le contrepoint, la fugue et tout, etc., et qui apprécient Sébastien Farge. Comme quoi, il le mérite.
À juste titre.
Il le mérite, mais nous, il va bien falloir que...
Ah oui.
Ah oui.
Eh oui.
Car on a mérité l'indicatif, mais et le voici.
D'ailleurs, je l'entends, oui. Bon. Ben, on se dit à la semaine prochaine.
Ben, à la semaine prochaine. Bonne soirée. Merci, Francis.
Salut, merci pour ces bons conseils de lecture, Jean-François.
Salut à toutes et à tous. Mm-hmm.